Buenos días.
Ireland.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Getta le tue reti, buona pesca ci sarà.
Bonjour à tous. La guerre du poisson fait toujours rage au large des côtes libyennes. Les pêcheurs italiens de Sicile sont régulièrement attaqués, leurs bateaux mitraillés, l'équipage est parfois pris en otage et leurs bateaux réquisitionnés. Mais les pêcheurs siciliens viennent enfin d'obtenir la protection de la marine militaire italienne. Reportage à Mazara del Vallo, port de pêche le plus important du bassin méditerranéen, avec Cécile Debarge.
Dans un brouhaha mécanique, de grosses crevettes volettent sur un tapis roulant où elles finissent en quelques secondes entièrement épluchées. Domenico Azzaro est fier de sa pêche. Après plus d'un mois en mer à bord du Giulia, il vient de rentrer au port de Mazara del Vallo et contrôle la marchandise dans l'usine de transformation.
Ici, on a de tout, des crevettes, du poisson, des poulpes, des calamars, des sèches et des langoustes. On a même cette machine qui congèle tout en quelques minutes et qui descend jusqu'à moins 40 degrés.
Celui qui est également président de l'association des armateurs de Mazara del Vallo profite de ses quelques jours à terre pour vendre ses kilos de rougets et de gambas, mais aussi pour rappeler aux autorités restées à quai que la pêche en haute mer est devenue de plus en plus dangereuse.
La plupart des chalutiers de Mazara del Vallo pêchent les gambas et notre zone de pêche, c'est essentiellement celle-là, au nord de Misrata, au nord-est de Misrata même. Ensuite, on a la zone de Benghazi, à environ 35 ou 40 milles de Benghazi, et ensuite la zone de Derna.
Au large des côtes libyennes, les incidents sont nombreux. Dernière en date pour les pêcheurs siciliens, l'attaque de l'un de leurs chalutiers par 6 hommes armés. Partis des côtes de Misrata à bord d'un bateau pneumatique, ils ont foncé à toute allure vers les chalutiers qui avaient posé leur filet dans la zone.
On était déjà sur le qui-vive et très attentif à ce bateau pneumatique. Alors on a appelé le navire de la marine militaire grécale. Ils sont venus sur zone et ils ont sorti leur hélicoptère qui a survolé le bateau pneumatique pendant bien trois quarts d'heure. Le bateau de la marine militaire a dû nous prêter main forte parce que les assaillants voulaient à tout prix ramener l'un de nos chalutiers à terre.
L'incident remonte à quelques semaines, à 45 milles au nord-est de Misrata. Les attaquants ont fini par rebrousser chemin après l'intervention de la marine militaire. C'est une première. Après des années à demander un soutien de la marine italienne pour les protéger pendant leur campagne de pêche, les pêcheurs de Mazara ont fini par avoir gain de cause. Désormais, les bateaux de l'opération européenne Triton maintiennent un contact permanent avec eux et les préviennent des mouvements suspects au départ des côtes libyennes. En octobre 2010, déjà, Domenico Azzaro et son équipage s'étaient fait prendre en otage. Après plusieurs semaines passées dans une prison de Benghazi, un tribunal les avait libérés sur caution.
On a dû descendre tout notre matériel de pêche, tout ce qu'on avait à bord, et seulement ensuite on a pu partir.
Et puis andate via.
Cela fait des années que dure cette guerre du poisson entre l'Italie et la Libye. Un différend qui remonte à une décision unilatérale du colonel Kadhafi d'étendre ses eaux territoriales.
Quindi, questo qua.
Donc ici, on part presque du 32e parallèle pour arriver à celui-là, qui est quasiment le 34e parallèle.
Sur la grande carte qu'il a déployée, Lino Tumbiolo montre l'étendue de la zone de pêche exclusive que s'est arrogée la Libye, presque la moitié de la Méditerranée, dit-il. Depuis, les incidents et prises d'otages de chalutiers sont fréquents. Dans le code de la mer qu'il feuillette, le président de la coopérative de pêche locale remonte à l'origine de cette guerre du poisson.
Voilà, ça fait bientôt 12 ans que la Libye a étendu ses eaux territoriales de 62 000 et que cette zone se retrouve sous sa juridiction. À moins d'avoir une autorisation exceptionnelle, elle empêche toute activité de pêche dans sa zone.
Aujourd'hui, le colonel Kadhafi n'est plus, mais le problème persiste et le chaos politique en Libye rend encore plus dangereuse la pêche au large des côtes du pays. Lino Tumbiolo.
On pourrait parler avec les différents armateurs qui sont sur place, avec les gens qui travaillent là-bas, mais le problème, c'est qu'on n'a aucune sécurité. Comme il n'y a pas de gouvernement stable, alors tu te retrouves à passer un accord avec quelqu'un et ensuite tu tombes dans une zone sous une autre influence et là, tu peux te faire prendre en otage ou avoir des problèmes.
En haute mer, Domenico Azzaro détaille de nombreuses intimidation. Il raconte l'histoire de l'un de ses collègues dont le chalutier a été criblé de rafales de mitraillettes. Pour lui, la seule solution est que la marine militaire maintienne son soutien aux pêcheurs hauturiers. Et il ne voit pas vraiment d'un bon œil l'accord passé récemment entre l'Union européenne et la Libye afin de former et équiper les gardes garde-côtes libyens pour les aider à mieux contrôler leurs côtes.
Ça, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, nous les pêcheurs de Mazara. Dès qu'ils seront équipés en vedettes de patrouille, ils s'en serviront pour nous prendre en otage et demander ensuite quelque chose en échange au gouvernement italien. Exactement comme le faisait Kadhafi avec Berlusconi.
L'accord entre l'Union européenne et la Libye devrait être effectif d'ici quelques semaines. En attendant, les pêcheurs de Mazara tentent d'organiser une nouvelle rencontre avec leurs homologues libyens.
Pas de guerre de la pêche en vue au large des côtes islandaises. Les campagnes sont pacifiques et le secteur se porte on ne peut mieux. Mais pour combien de temps encore? Car c'est un paradoxe de la bonne santé économique en Islande, qui affichait plus de 7% de croissance en 2016 et un secteur financier stabilisé. La monnaie nationale, la couronne islandaise, est à son plus haut niveau depuis une décennie, ce qui finit par handicaper les secteurs les plus porteurs du pays, pêche et tourisme en tête. Le reportage de Jérémy Richard.
Dans le petit port de Sandgerði, au sud-ouest de l'Islande, Halldór Hermansson part en mer 2 à 3 fois par semaine une dizaine d'heures pêcher le cabillaud. L'activité lucrative est l'une des principales pourvoyeuses de richesses du pays. Mais face à l'appréciation de la couronne islandaise, la petite entreprise familiale qu'il tient avec son père est menacée.
C'est un gros problème pour nous. Nous devons pêcher plus pour garder les mêmes revenus, mais nous sommes soumis à des quotas. Donc, ce n'est pas possible de gagner autant d'argent quand la monnaie est si forte. Nous allons probablement perdre un tiers de nos revenus cette année.
En 2015, plus de 42% des exportations totales de l'Islande étaient des produits issus de la pêche, selon l'Institut statistique national. Et si le secteur se porte à merveille, le pêcheur voit d'un mauvais œil la puissance du secteur touristique sur l'île. L'importante entrée de devises dans le pays liée au tourisme explique en grande partie l'appréciation du taux de change de la couronne islandaise. Le professeur en économie Þorólfur Matthíasson tire la sonnette d'alarme.
Si ça continue, le tourisme va mettre hors jeu tous les autres secteurs du pays et notre économie ne va plus reposer que sur cette industrie. Il est préférable pour toute économie moderne d'avoir plusieurs jambes pour se tenir debout.
1 800 000 touristes ont visité l'Islande en 2016, un record. Le secteur est désormais celui qui rapporte le plus au pays des Vikings. Mais il n'est pas épargné non plus par la hausse de la monnaie locale. À l'hôtel Rangao, luxueux resort 4 étoiles construit en bois sur la côte sud du pays. La majorité des réservations se fait en monnaie étrangère. Le responsable, Fredrik Paulsson.
Nos revenus ont baissé d'environ 15 à 20% en moins d'un an. Dans le même temps, les salaires en couronne islandaise ont augmenté de 7 à 12%. Les effets sur les comptes sont énormes et les entreprises sont vraiment en difficulté.
Dans les agences de voyage aussi commencent à poindre les premières difficultés. Bertrand Johan est manager général de l'agence islandaise Ferðakompanið, dont une partie du marché se situe dans des pays francophones comme la France, la Belgique et la Suisse.
Sur les voyages organisés, il semble qu'on arrive à un niveau de prix qui soit assez dissuasif. On commence à avoir des gens effectivement qui trouvent que c'est assez cher et remettre plus tard leur projet. On commence à avoir des gens qui sont venus sur place et qui se rendent compte que manger dans un restaurant, c'est pas donné. Donc effectivement, on sent que c'est un petit peu plus compliqué à ce niveau-là.
L'addition est également salée pour les touristes qui règlent des factures environ 40% plus chères cette année. Jesse Picard, un Français de 31 ans, ne ramènera aucun souvenir après avoir fait le tour de l'île avec 4 de ses amis.
J'avais retiré 200 euros, on va dire. Les 200 euros sont partis largement dans la semaine. Et là, donc, j'ai dépensé les 200 euros et maintenant, je dépense plus rien.
Deuxième plus forte croissance de l'OCDE à plus de 7% en 2016, les prévisions indiquent que l'économie islandaise devrait à nouveau croître d'environ 4% en 2017.
Europa. Europa.
À quelques jours du premier tour de la présidentielle en France, Accent d'Europe donne la parole aux correspondants de la presse européenne en France. Une presse qui couvre largement notre campagne mouvementée avec étonnement ou inquiétude. C'est notamment le cas de Michaela Wiegel, correspondante en France pour le grand quotidien libéral allemand, Frankfurter Allgemeine Zeitung.
pour Michaela Wiegel, dont c'est la quatrième campagne électorale. Cette élection inédite aura un impact sur l'avenir de l'Europe.
Cette élection est probablement l'élection française qui intéresse le plus les Allemands, parce qu'on a l'impression, après la décision du Brexit et aussi après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, c'est une élection décisive pour l'avenir européen de l'Allemagne aussi, et que la France a les clés, en quelque sorte, de cet avenir commun. On a aussi une élection au mois de septembre en Allemagne, mais on a l'impression que c'est selon le choix des Français que nous allons pouvoir nous déterminer aussi.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui surprend les Allemands, en particulier chez les candidats? Ils sont 11 tout de même.
Oui, alors c'est le grand nombre, mais ça on a un peu l'habitude maintenant. Je pense que ce qui a le plus surpris, c'est quand même le ton très europhobe qui a marqué au moins le seul débat télévisé des 11 candidats. On avait l'impression qu'il y avait une surenchère de critiques contre l'Union européenne, aussi bien de gauche comme de droite. Et ça, c'est vrai, on avait probablement un peu sous-estimé l'importance du désarroi ou du malaise européen des Français.
Après l'Allemagne, c'est l'Italie où l'inquiétude domine, tant le résultat de l'élection française risque d'avoir des conséquences sur les habitants de la péninsule. C'est en tout cas le sentiment profond d'Anaïs Ginori, correspondante de La Repubblica à Paris.
Dans ce cas précis pour l'élection, il y a un intérêt qui est pour les conséquences que l'élection et la victoire éventuellement de Marine Le Pen notamment pourraient avoir, parce que la fin de l'Europe pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'Italie, qui est un pays très endetté, avec une économie encore fragile, où la croissance n'est pas encore revenue. Comme vous savez, il y a eu la défaite du Premier ministre Matteo Renzi au référendum il y a quelques mois, un gouvernement de transition. Et il y a des élections de toute façon qui sont prévues l'année prochaine. Donc c'est un pays qui craint beaucoup l'instabilité nationale, mais l'instabilité européenne, qui pourrait avoir des répercussions très très immédiates sur l'économie et la démocratie italienne.
En France, pour cette élection, quel candidat suivez-vous le plus ou qui suscite le plus d'étonnement en Italie, hormis Marine Le Pen?
C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il intrigue, il fascine, parce qu'il a eu ce courage de porter justement une bataille pour l'Europe, de faire vraiment une alternative assez claire et nette par rapport au discours de Marine Le Pen. Je pense que c'est très nouveau.
Oui, alors justement, 11 candidats cette année pour la présidentielle française, et beaucoup de candidats qui expriment leur euroscepticisme. Est-ce que cela vous étonne?
Non, ça ne m'étonne pas. Moi, je pense qu'il y a quand même ce précédent très important du référendum sur la Constitution européenne de 2005, dans lequel la France s'est exprimée en majorité pour le non. Et je pense donc que cette France existe toujours. Je pense que s'il y avait un deuxième tour Le Pen-Macron, ce serait une sorte de répétition de ce référendum de 2005 avec oui ou non à l'Europe. Donc je pense qu'il reste une France qui doute, une France qui n'est pas si ouverte à la construction européenne.
Anaïs Ginori et Michaela Wiegel répondaient à Catherine Roland. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Pour votre chronique jeune, on reste sur la présidentielle française avec les propositions des candidats en matière de mobilité pour les jeunes. Une thématique souvent abordée dans les différents programmes.
Eh oui, on commence à connaître la rengaine. À défaut de permettre aux jeunes de trouver un emploi stable, on les pousse à voyager et à acquérir de l'expérience ailleurs. Alors vous le disiez, les candidats à la présidentielle cette année ont été nombreux à insérer quelques mots dans leurs agendas sur Erasmus+, le grand programme de mobilité européenne pour les jeunes que l'on ne présente plus. Il y a d'abord ceux qui n'ont pas très bien révisé leurs fiches, comme Emmanuel Macron et Jacques Cheminade, qui proposent quand même d'établir quelque chose qui existe déjà, à savoir l'Erasmus des apprentis, bien essayé. Il y a enfin ceux qui veulent élargir le programme à toute la francophonie, comme Jean-Luc Mélenchon, convaincu que la survie de la langue française se joue aussi dans la mobilité. Et enfin Benoît Hamon, le candidat socialiste, qui veut lui aussi élargir le programme au plus grand nombre et propose d'instaurer un semestre obligatoire à l'étranger pour tous les étudiants durant leur formation. Rappelons que pour l'instant quand même, le programme ne concerne que 4% des étudiants européens chaque année.
Alors avec des arguments parfois étonnants, je pense notamment aux déclarations de Yannick Jadot chez nos confrères de France Inter.
Oui, l'ancien candidat des Verts rallié au candidat socialiste. Un argument imparable, on l'écoute tout de suite.
Vous savez qu'un jeune qui voyage un an dans un autre pays européen, dans 25% des cas, il tombe amoureux. Et donc, c'est aussi la France de l'amour, voilà. L'Europe de l'amour, et franchement, une Europe qui serait plus métissée, qui serait plus brassée, c'est pas une Europe qui se disloque, c'est pas une Europe de la dégénérescence. La dégénérescence ne vient jamais du métissage.
Une Europe de l'amour, déclaration plutôt étonnante, Ève, mais d'où sortent-ils donc ces chiffres, Yannick Jadot ?
Eh bien, d'une grande étude que l'on avait mentionnée à l'époque dans Accent d'Europe sur les conséquences du programme sur la vie des étudiants et leur ouverture aux autres. C'était en 2014, on apprenait qu'un quart d'entre eux avaient rencontré leur futur conjoint durant un séjour à l'étranger. On dit même que ces unions auraient déjà donné naissance à près de 1 million de bébés, on les appelle les bébés Erasmus. Alors même s'il faut raison garder, hein, car selon des chiffres publiés cette fois-ci par la Commission européenne en 2010, sur 2,5 millions de mariages en Europe chaque année, à peine 80 000 concernent des couples mixtes, donc issus de deux pays européens différents.
En tout cas, l'amour reste un argument, hein, puisqu'il est aujourd'hui au cœur de plusieurs publicités Erasmus pour pousser les jeunes à partir.
Oui, l'agence Erasmus Plus, en France en tout cas, a lancé il y a un an et demi une chaîne YouTube baptisée Génération Erasmus pour tenter de toucher par le web des candidats qui ne se sentiraient pas forcément concernés autrement. Les petites vidéos alternent entre sketch et témoignages. On écoute un extrait où une responsable du programme présente à un jeune étudiant son futur lui.
Jamel.
Oui.
Peux-tu expliquer à Jamel comment c'était la Slovénie?
C'était un truc de fou. Attends, je me suis fait plein de potes. Budokil, Dragomil, Fadeta.
Attends, c'est cool.
Mais après, tu vois, j'ai rencontré mon prof, un mec génial. C'est grâce à lui que j'ai eu mon master. Parce que c'était un prof de programmation et algorithme. Et ça, j'adore ça, tu sais. Tu me connais, je suis moi. Et ma rencontre avec Andrika, ça, c'était un truc de fou. C'est la femme de ma vie, c'est... C'est la femme avec un grand F. Y a pas à dire.
C'est bon, t'as compris l'idée. Hein.
Bon alors, Ève, si les bénéfices du programme sont clairs pour les participants, notamment sur le plan amoureux, ils sont difficilement évaluables du côté des institutions.
Eh oui, il faut le rappeler, tant et si bien qu'il y a quelques années, le programme, après 30 ans, presque 30 ans à l'époque de bons et loyaux services, a failli passer à la trappe. Finalement, son budget a été renouvelé. Il est aujourd'hui de 14 milliards d'euros pour la période 2016-2020. Reste que pour en faire bénéficier les autres, il faut bien que la génération Erasmus, et je me compte dedans, se mobilise, car les bienfaits du programme, au-delà de l'amour et des bébés, se retrouvent aussi et surtout sur le CV, ce qui, en ces temps difficiles, me paraît être une raison suffisante de tenter sa chance.
Eh bien, on va dire bisous, Ève, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Un nouveau rendez-vous qui compte dans le monde de la photographie, le Belgrade Photo Month, qui tient sa seconde édition dans la capitale serbe. Jusqu'à la fin du mois, plus de 60 événements se déroulent dans une vingtaine de lieux, musées, galeries, clubs et cafés. Précision de Philippe Bertinchamp.
Des poupées allongées comme des cadavres sur un fond noir, recouvertes de papier journal. Ensemble, avec le Centre des femmes autonomes, la photographe serbe Maria Janković dénonce les violences contre les femmes, mais aussi leur traitement dans la presse sensationnaliste à gros tirage. Des réfugiés qui survivent dans le froid glacial, dans des entrepôts ferroviaires à Belgrade cet hiver. Un témoignage photo chargé d'une empathie peu commune, signé par l'anthropologue Igor Choko, un Serbe ayant fui la Croatie dans les années 90, lors des guerres en Yougoslavie. Voilà quelques-unes des meilleures expositions que présente Belgrade Photo Month. Cet événement, lancé en 2016, s'inspire du mois de la photo de Paris. En tout, plus de 60 événements, expositions, ateliers, conférences, films, disséminés dans une vingtaine de lieux, musées, galeries et cafés. On y croise des photographes professionnels et amateurs, des artistes, des historiens de l'art. Ils viennent de Serbie, mais aussi de Bulgarie, de Pologne, d'Ukraine, de France ou d'Espagne. Certaines expositions ont déjà rencontré un beau succès, comme celle du photographe serbe Goran Kukic, Recycling Memories, où l'on voit des photographies d'une vieille Fiat, de poupées démantelées ou du Père Noël, une exposition qui attirait quelques 2000 visiteurs dans un centre commercial. L'an dernier, le festival a accueilli pas moins de 12 000 visiteurs. Cette année devrait en attirer autant, selon l'organisateur, le catalan David Pujado. Des visiteurs serbes, mais également de plus en plus d'étrangers, venus à la découverte de Belgrade, spécialement pour l'occasion.
Et comme chaque jour, c'est Françoise Grelot qui a réalisé et mis en onde cette édition. On se retrouve demain dès 17h40, temps universel. Et tout de suite sur RFI.fr, à la page émission.